France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Décidément, chaque jour vaut la peine d'être vécu pour découvrir ce que nos voisins sont capables d'inventer. Si Beoga est une start-up montpelliéraine, c'est dans le Gard, qui est le fil rouge de cette semaine, que cette société innovante vient de créer une communauté énergétique encore jamais vue dans les carnets. Il s'agit de permettre à des habitants d'un quartier d'être en autoconsommation énergétique, autrement dit, l'électricité est produite sur place, consommée sur place, en synergie avec les autres habitants. Nous irons ensuite à Nîmes pour monter dans le vaisseau 3008, un lieu alternatif et provisoire au service de la culture, du social et de l'économie. Enfin, nous nous arrêterons en Loire-Atlantique pour visiter le Transistor, une ressourcerie citoyenne.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Amaury Pachurka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président, cofondateur de Beoga. C'est une start-up montpelliéraine.
Beoga, ça veut dire vivacité en gaélique.
Alors vous prouvez justement une belle vivacité, si j'ose dire, même une belle énergie, mais une énergie renouvelable. En créant une communauté énergétique, vous venez d'en créer une dans le Gard. Ça, c'est un concept que je découvre. Le principe, c'est de pouvoir bénéficier d'une électricité renouvelable qui est produite localement et de pouvoir la partager avec d'autres.
Exactement. Donc, on peut s'échanger l'énergie entre voisins et avec la municipalité du Kélard, dans le village dans lequel on est également, puisqu'elle est partie prenante dans le projet. Donc, en fonction de la production, des consommations des uns et des autres, on peut répartir au mieux l'énergie qui est produite localement.
L'installation de ce que vous appelez cette communauté Smart Loukila au Kélard, dans le département du Gard, dans cette petite commune, a été réalisée donc avec vous, avec Enedis et un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, Planète Oui. Le principe, c'est d'installer du photovoltaïque d'abord.
Le principe, c'est d'installer de l'énergie renouvelable. Alors, on travaille effectivement sur le photovoltaïque parce que c'est le plus simple. D'ailleurs, on a un partenaire aussi installateur qui s'appelle Libo.
Oui.
Donc, effectivement, le principe, c'est d'abord de la source d'énergie renouvelable. Alors, comme je disais, c'est le solaire parce que c'est le plus facile. Mais derrière, ça peut très bien être d'autres sources d'énergie renouvelable sans problème. Nous, on est agnostique, on se connecte à toutes les sources. Et donc ensuite, on mesure les productions et les consommations de chacun pour les répartir au mieux en fonction de ce qu'on a dans la communauté. Et effectivement, on a Enedis parce qu'on reste connecté au réseau. Bien sûr, on utilise d'ailleurs le réseau d'Enedis pour transférer l'électricité entre les points. Et on se connecte au compteur communicant pour avoir les mêmes données qu'Enedis et ainsi avoir des données corrélées avec les données du réseau.
Alors comme vous le disiez, Amaury, j'habite dans un quartier qui correspond à cette communauté énergétique. Mon voisin est parti en vacances, je peux utiliser son électricité.
Exactement.
Ouais, mais alors la facture se partage comment ?
Alors la facture, ce que vous tirez sur le réseau, dans tous les cas, vous avez votre fournisseur d'électricité qui va vous le facturer.
Mmh.
Et ensuite, les factures en interne au sein de cette communauté, en fait, on se facture en interne. Alors c'est pas vraiment de la facture, c'est pas une société, mais en fait on se rémunère l'électricité les uns les autres en fonction de ce qu'on a consommé chez l'un ou chez l'autre.
Alors bien sûr, c'est une énergie verte et en plus ça on fait des économies.
Alors c'est plus qu'une énergie verte, c'est une énergie renouvelable. Donc aujourd'hui on obtient des résultats de l'ordre de 15% de la réduction de la facture énergétique à la fin de l'année. Ou par mois, peu importe, mais l'objectif c'est 20%, c'est 15%, pardon. On y arrive avec la première communauté, et c'est aussi l'utilisation de 20 à 30% d'énergie renouvelable locale en plus. Donc c'est à la fois local, solidaire, puisque il y a aussi une espèce de réseau social qui se crée entre les voisins, et donc effectivement moins cher.
Je signale que vous êtes une entreprise labellisée par le ministère de la Transition écologique et de la Solidarité. En tant qu'entreprise à mission, une entreprise à mission, c'est une entreprise dont une partie de la vocation va dans l'intérêt général. Mais alors justement, à propos de la communauté énergétique, combien de foyers peuvent intégrer une communauté ?
Alors aujourd'hui, la première communauté, elle a une petite taille, il y a 7 points. Elle est amenée à grandir très bientôt puisqu'on a lancé des recrutements, je dirais, complémentaires par de nouvelles offres commerciales. Derrière, par contre, une communauté, elle est plutôt limitée en termes de distance, en fait.
Mmh.
Donc c'est aujourd'hui limité à un rayon d'un kilomètre pour les zones urbaines et un rayon de 10 kilomètres pour les zones pour les zones rurales, on va dire, pour les zones à faible densité.
Ça veut dire c'est limiter la distance entre la zone de production et les habitations.
C'est-à-dire que les deux points d'une même communauté ne peuvent pas être éloignés de plus donc de 2 km en urbain et de 20 km en densité faible.
Vous êtes nombreux en France à créer de telles communautés ?
On est, je pense, 4 ou 5 dans le domaine des communautés énergétiques en autoconsommation collective. Ensuite, il y a quelques projets d'autoconsommation collective qui sont menés aussi par des associations, des bailleurs sociaux ou des collectivités. Il y en a une 50aine en France aujourd'hui.
Oui. Alors je vois, vous allez vite quand même en besogne. Beoga est créé en octobre 2019. Donc il y a le Kailar là, avec cette belle expérience. Mais vous êtes en préparation d'autres installations à Montpellier, Avignon, Alès.
Oui, c'est ça. Montpellier, Avignon, Alès. Une autre aussi dans une autre partie en banlieue de Montpellier. Effectivement, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour essaimer ce modèle. Donc, qui se veut à la fois écologique et économique. Mmh. Parallèle, on développe des nouvelles fonctionnalités. On intègre la mobilité, par exemple, ou de nouvelles fonctionnalités.
Et puis vous, par ailleurs, vous créez des emplois.
Et nous, on crée des emplois. Aujourd'hui, Beoga, c'est 14 personnes.
Ouais. Donc, beoga.fr pour l'adresse. Et vous avez aussi autoconso-collectif.fr. Là, il s'agit évidemment de parler d'autoconsommation collective en devenant ce que Beoga propose, en devenant locavore énergétique. Merci, Amaury.
Merci.
France Inter, carnet de campagne.
Donc, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, nous montons à bord du vaisseau 3008 pour ses 3800 m² de surface. Tout commence avec l'association Le Spot, connue à Nîmes pour avoir restructuré un bâtiment de 500 m² en lieu de partage, de travail partagé avec bar, cantine, micro-brasserie et des ateliers proposés aux artisans et aux artistes de la région. Le vaisseau 3008 est la copie conforme dans un volume bien différent et dans un cadre très particulier. En effet, cet ancien bâtiment du service action sociale et santé du département fait l'objet d'une convention d'occupation précaire par le SPOT, puisque l'édifice est destiné à devenir, dans un très proche avenir, un immeuble d'habitation. Ça ressemble à une course contre la montre et en même temps une expérience pilote pour évaluer ce que les hommes et les femmes sont capables de construire en commun. Aussi courte soit-elle, cette expérience a l'intention de laisser une trace dans le quartier, c'est celui de la Placette à Nîmes. Pour l'instant, c'est une centaine d'actifs qui sont montés dans le bateau, des psys, des couturières, des photographes, des coiffeurs, des tapis et des céramistes, jusqu'à même une société de production vidéo. Sur 2 étages, les bureaux sont loués à raison de 6 € le mètre carré par mois et des espaces accueillent un bar et un restaurant tout aussi éphémère que le reste. Il y a une guinguette qui avait déjà été inventée cet été dans la cour centrale de l'édifice et le maître mot du collectif est la liberté à tous les étages. A priori, ça marche. Il y a une page Facebook, la page du Spot et puis le spotnim.com pour l'adresse de ce collectif bien sympa. Gaëlle Mention, bonjour.
Bonjour.
C'est très amusant d'interroger la directrice du Transistor lorsqu'on parle à la radio. Alors, vous avez ouvert les portes de ce lieu, cette ressourcerie à la Chapelle-sur-Ardre. Enfin, vous avez ouvert, il y a quelques jours, un premier espace, un comptoir de dons. Alors, ça signifie quoi? Et vous fonctionnez, vous organisez de quelle façon la ressourcerie?
Donc, le comptoir de dons, c'est en effet un élément structurant de la ressourcerie. C'est la zone où des particuliers vont pouvoir nous déposer des objets dont ils ne se servent plus. Et ils ont cette volonté de donner une seconde vie à ces objets, de leur trouver un nouveau propriétaire. Du coup, ils en font cadeau, on va dire, à la ressourcerie, afin que la ressourcerie puisse valoriser cet objet et lui trouver un nouveau propriétaire.
Vous êtes un exemple parmi d'autres des ressourceries. Il y en a de plus en plus, et tant mieux, on parle de réemploi, d'économie circulaire. En revanche, tout le monde se demande, on peut être intéressé, comment se créer une ressourcerie? Vous dites que vous êtes passé par des phases test.
Oui, l'association Transistor, elle a été créée en 2016 avec cette idée de faire une ressourcerie. Mais depuis 2016, en fait, on a testé différents modèles de ressourcerie. Donc, on a fait des ressourceries éphémères, on a fait des ressourceries ambulantes. On a après fait une ressourcerie un peu intermittente, où du coup, on est ouvert peu de jours par mois. On a testé différents modèles. Mais il y a aussi le côté modèle économique où on est parti avec plutôt des bénévoles. Il y a des choses comme ça qu'on a pu tester. et qui nous ont confortés dans l'idée qu'une ressourcerie, c'est quelque chose d'attendu sur le territoire. Mmh. Et donc là, on a voulu changer d'échelle et passer avec un modèle économique basé sur des bénévoles, certes, mais aussi une part de salariés.
Oui, alors une part de salariés, ça implique des charges, ça implique donc aussi un fonctionnement et une trésorerie, mais vous y arrivez grâce à un partenariat avec une équipe de Solidarité Emploi qui est une association qui existe depuis 30 ans en matière d'insertion professionnelle.
Tout à fait. En fait, on a vraiment voulu compléter nos compétences. Côté Transistor, on est une association qui avait plutôt la compétence sur tout ce qui était réemploi, réduction des déchets, consommation responsable. Solidarité Emploi est une structure donc qui en effet existe depuis 1985 et qui a vraiment cette compétence d'accompagnement des personnes vers le retour à l'emploi. Et on a vraiment souhaité s'associer pour pouvoir vraiment mutualiser nos compétences là-dessus et apporter quelque chose de complet et cohérent.
Ça veut dire que vous donnez du travail à combien de personnes ?
Donc le projet là du Transistor via sa ressourcerie, c'est 10 salariés dont 8 postes qui sont accessibles à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mmh. Voilà, on offre aussi la possibilité, en fonction du parcours des personnes, plusieurs outils pour rejoindre la ressourcerie du Transistor.
Et j'insiste sur votre exemple parce que c'est d'abord une initiative citoyenne, mais ça prend une tournure économique comme une entreprise.
On avait vraiment cette volonté et cet objectif que ça serve aussi sur un volet économique et qu'il y ait cette création d'emplois ancrés sur le territoire qui nous paraissait aussi un élément fondamental qu'on a toujours eu en ligne de mire.
Bien sûr. Il y a une campagne de financement en ce moment ?
Tout à fait. Pour,
et je ne perds pas le nord, hein, vous avez remarqué Gaëlle. Hein.
On est au tout début, on est en phase d'ouverture. Et forcément, comme tout projet qui se lance, on fait face à pas mal de dépenses. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait une campagne de financement participatif. Mais c'est aussi pour permettre aux personnes qui, à cet instant, n'ont peut-être pas d'objet à donner ou qui sont un peu loin de Nantes, qu'elles puissent aussi faire leur part. Et donc, c'est aussi un geste de soutien sur ce nouveau mode de consommation qu'on a envie de voir évoluer, en fait.
Ouais. Et ouverture donc du magasin, de la boutique, le 10 novembre.
Oui, ça arrive. C'est bientôt. Il nous fallait un petit délai entre l'ouverture du comptoir de dons et la boutique, parce que forcément, la boutique est alimentée par les dons des particuliers. Et donc, on a voulu une boutique qui se veut vraiment agréable, en termes de fluidité, en termes d'esthétique, que les choses soient assez organisées et claires, parce qu'on trouve ça aussi important que le réemploi, ce soit quelque chose d'attractif.
La radio souhaite un avenir radieux au Transistor.
Merci beaucoup.
Letransistor.org. Merci Gaëlle.
Merci à vous.
Je termine par une lettre, il y en a de nombreuses, continuez à nous écrire hein, pour vos initiatives. Celle-ci émane de Louise, qui nous écrit fraternellement. Quel drôle de nom pour un festival. Effectivement, ce festival qui a commencé il y a quelques jours à Saint-Junien, en Haute-Vienne, a pour nom « Foutez-nous la paix ». Il dure jusqu'à dimanche inclus, avec 3 invités d'honneur, Serge Halimi, Médéa Benjamin, qui est militante américaine, cofondatrice du mouvement féministe et pacifiste Code Pink, et également l'essayiste et documentariste américain Eddie Harris. Donc on parle en ce moment de paix à travers le théâtre, des conférences, des débats, des ateliers, des concerts, des spectacles de rue, et même écrit Louise, au fil d'une balade littéraire en canoë, c'est jusqu'à dimanche inclus en Haute-Vienne, à Saint-Junien, la deuxième édition du festival Foutez-nous la paix. Décidément, ça me fait rire.